Une vie, une œuvre. C'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Gustave Caillebotte, 1848-1894. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était collectionneur, mécène, ingénieur naval, philatéliste, régatier, peintre et jardinier. De celui qui a peint la ville, les hommes en noir qui la peuplent, mais aussi les travailleurs et les parties de campagne. Sur les photos, il pose généralement de face ou de trois quarts et regarde droit dans l'objectif, les cheveux sont coupés très courts en brosse et un mince collier de barbe souligne son visage rond. Sur les autoportraits qu'il a peints, il fait aussi face aux spectateurs, que ce soit assis, les pinceaux à la main en peintre ou plus détendu sous un chapeau de soleil. Mais lui prend soin d'affiner son visage. Sur d'autres photos, sans doute prises par son frère, il est plus naturel. Redingote longue, croisée, chapeau haute forme, élégant, il promène son vieux chien devant le Louvre et semble lui parler. Ou encore, devant sa table à dessin, en ingénieur, ses tableaux oubliés dans le fond de la photo, mais là, il est de profil. Et on découvre alors son long nez que les portraits avaient tenté de nous cacher et qui donne encore plus de charme à ce petit homme mort trop jeune. On peut aller voir ce parcours de plus près, jusque fin juillet, au musée des impressionnistes à Giverny. Mais tout de suite, Gustave Caillebotte, un héros très discret, un documentaire d'Amaury Chardot et Anne Pérez.
Il y a un vue de boulevard de Caillebotte qui est fait de son balcon boulevard Haussmann, sans horizon, un champ très vide, avec des personnages tout petits qui traversent un carrefour énorme et vide. Et ce sens d'isolation de l'homme dans la ville, pour ne pas dire aliénation dans la ville, ce sens des gens qui poursuivent leur route chacun dans son monde isolé. Moi, je retrouve une fraternité d'esprit avec certaines sculptures de Giacometti qui représentent des personnages dans des énormes espaces publics ou l'espace qui range la figure.
Il y a quelque chose de fragile dans ce regard. Il y a quelque chose de très déterminé dans l'attitude. Je trouve qu'il y a une sorte d'inquiétude qui perce à travers le regard de Caillebotte, là. C'est possible qu'il y ait une forme de mélancolie. Et c'est possible aussi que ce soit simplement une forme de solitude, parce qu'à suivre son chemin, comme il ne fait pas de concessions, comme il respecte ses goûts, ses convictions, ben il a fini seul, sans famille, sans enfant. Enfin, je ne sais pas si vous dites ça, parce que c'est un peu triste. Si. Mais c'est le risque de la liberté.
Peut-on commencer ? Pourquoi pas ? Par la fin.
C'est après 1890... Dans cette série de photos d'hiver avec les chiens, Caillebotte a l'air d'être déjà assez malade. Il a le visage assez émacié. Le fait qu'il soit assis dans ce jardin en hiver, peut-être est-ce qu'il est déjà fatigué. Et puis les chiens qui sont là, qui sont très présents dans toutes les images qu'on a de Caillebotte. On voit la scène au bout du jardin, derrière la haie. La propriété était vraiment sur la berge et... Je pense que cette zone blanche, ce sont les flots de la Seine que l'on voit puisque les arbres sont sans feuilles.
Par une claire et froide matinée de février 1894, le peintre Gustave Caillebotte se promenait dans le jardin de sa plaisante propriété du Petit Gennevilliers qui longeait le chemin marinier de la Seine devant Argenteuil. C'était un homme de 46 ans, aux poils châtains déjà grisonnants, aux yeux gris éclairant une face pâle et fine. Les pieds dans de gros sabots de paysan, il musait à travers les allées, si peu bourgeois d'allure qu'on eût pu le prendre pour le jardinier de ces parterres admirablement apprêtés, où dès avril s'épanouissaient toutes les fleurs de la création. Or, ce matin de février, comme Caillebotte s'attardait, sécateur en main parmi ses rosiers riches de promesses, le froid le saisit et il se prit à grelotter. Vite, il regagna son atelier chaud, et sans plus se soucier de cette alerte, il se mit à peindre. Cependant, peu après, il ressentait des frissons de fièvre. Une congestion pulmonaire se déclara, qui l'abattit en moins de 3 semaines. Le 26 février, un petit cortège d'artistes, d'amateurs, de critiques d'art, de yachtmen, accompagnait au Père Lachaise la dépouille de Gustave Caillebotte, artiste peintre, vice-président du Cercle de la Voile, conseiller municipal de Gennevilliers. Adolphe Tarabant, Bulletin de la vie artistique, 1er août 1921.
C'était un peintre,
Jean Chardeau,
qui peignait pour son propre plaisir, qui ne vendait pas de tableaux et qui, ayant une certaine fortune, était un mécène et aidait des peintres qui n'avaient à l'époque aucun succès, Degas, Pissarro, Renoir, Monet, Manet, qui vivaient bien souvent, certains, de façon assez difficile, et Caillebotte, qui aimait leur peinture, leur achetait leurs tableaux et les aidait.
Gustave Caillebotte, un héros très discret.
L'une des toiles les plus révélatrices de sa vie de famille est probablement celle de 1876, le déjeuner.
Mary Morton.
La scène se passe dans l'appartement familial rue de Miromesnil. On y voit la mère du peintre, habillée en noir, portant toujours le deuil de son mari mort un an et demi plus tôt. À sa gauche, René, son second fils, qui a alors 25 ans, attaque son assiette de manière très énergique, alors même que sa mère n'est pas encore servie. Il ne lui prête aucune attention et ça crée une distance très forte. Et puis, étrangement, au premier plan de cette table ronde, face à nous, est posée une assiette vide. Et entre cette assiette, la nôtre ou celle du peintre et celle de sa mère, sont posés plein de cristaux de famille de baccarat, des carafes, etc., qui allongent et étirent exagérément l'espace, en voyant sa mère très loin. C'est un déjeuner de famille, on devrait ressentir de la joie, du plaisir, de la chaleur, de la convivialité. Et au lieu de quoi, on perçoit comme une tension, une claustrophobie. On sent que l'unité de la famille ne va pas de soi.
Dans les maisons bourgeoises du 19e siècle, on entretenait les parquets avec de l'encaustique, un mélange de cire et de térébenthine. Avec le temps, l'accumulation de cire nécessitait régulièrement de remettre le bois à nu. On faisait pour cela appel à des raboteurs. Ce jour de 1874, Gustave a 27 ans et il aperçoit des hommes au travail dans l'une des pièces de l'hôtel particulier que son père a fait construire. La lumière qui tombe depuis la fenêtre du fond joue sur les reflets des lattes. La chaleur fait que les ouvriers ont retiré leurs chemises et s'activent torse nu. L'un rabote, l'autre racle, le troisième lime. Gustave, lui, les observe. Nul ne sait ce qu'il a en tête lorsqu'il décide de les peindre, mais la toile qu'il tire de cette scène restera longtemps sa seule œuvre visible du public français. Et encore pour cela, avait-il fallu que Renoir décide d'inclure ce tableau dans le legs de peinture impressionniste fait à l'État par ce peintre collectionneur. Modeste, Caillebotte l'était, assurément, concernant sa propre peinture. N'ayant pas besoin de vendre sa production pour vivre, il ne fréquentait guère les marchands, lesquels auraient pu être tentés de le détromper. Même sa famille semblait s'être rangée à la vie qu'il n'était et n'avait été au fond qu'un peintre de second plan, un peintre du dimanche, disait de lui sa nièce, mon arrière-grand-mère. Bref, dans la famille, ses toiles et sa mémoire ont longtemps encombré. Si depuis sa production s'est largement diffusée dans les musées, de l'homme qu'il fut, on ne sait toujours pas grand-chose. Quelques témoignages, peu de lettres, une poignée de photos. L'essentiel de cette vie intime, ambitieuse mais modeste, révolutionnaire mais discrète, reste enfoui, comme les fibres du bois sous les couches de cire d'un parquet, qu'il faudrait remettre à nu.
Les Caillebotte étaient potiers, de père en fils, et puis un Caillebotte a créé une société, le lit militaire, dans lequel il fabriquait tout ce qui est nécessaire pour le soldat.
Gilles Chardeau.
Le père de Gustave donc l'a fortement développé, notamment lors de sa venue à Paris. Et il habitait rue du Faubourg-Saint-Denis. C'est là d'ailleurs où Gustave Caillebotte est né. Paris était en pleine transformation. Le baron Haussmann refaisait entièrement Paris. Et c'est comme cela que le père de Gustave a acheté un terrain et a fait construire un immeuble, rue de Miroménil, en 1866.
C'est quelqu'un dont la vocation n'a pas été entravée par la famille. Il est né dans un milieu particulièrement favorable.
Stéphane Guégan.
Un père intelligent, des frères brillants, des gens cultivés, qui sont portés par le goût de la collection, qui sont aussi portés par le goût de la modernité. Ce sont des hommes d'affaires, c'est la Nouvelle France, c'est celle qui gagne. Et Caillebotte est porteur de ces valeurs-là. D'ailleurs, sa peinture le dit, mais même les sujets de sa peinture, les portraits, ses compositions où on voit des hommes entre eux, ou ses amis qui appartiennent à la presse, à l'industrie. En tout cas, il ne s'agit pas de jeunes oisifs, il s'agit bien de gens qui sont dans la vie, qui sont conscients que la France est à reconstruire.
Une carrière artistique dans ces milieux de la haute bourgeoisie ne convenait absolument pas. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord faire des études, et après on pouvait faire ce que l'on voulait. Donc on imagine parfaitement le dialogue entre le père et le fils. Tu veux faire les beaux-arts, très bien, mais fais d'abord ton droit. Gustave a fait sa licence en droit, qu'il a obtenue. Et l'année d'après, il allait s'inscrire aux beaux-arts, mais la guerre est arrivée. Et tout de suite après la guerre, il s'est inscrit aux beaux-arts.
C'est quelqu'un qui, justement, va souffrir, alors qu'il a une vingtaine d'années, de la défaite de la France en 1870, et des conséquences de la Commune. Quels que soient ses sentiments à l'égard de la Commune, il est très marqué également par l'atmosphère qui règne en France après la guerre et la Commune, qui est à la fois faite d'humiliation, de souffrance morale, physique, mais aussi d'une envie de tourner la page. On a oublié aujourd'hui ce qu'a été le traumatisme de la défaite de 70. Ce sont d'abord des milliers de morts parmi la jeunesse de l'époque, des artistes aussi qui meurent, Regnault, Bazille, des artistes qui étaient porteurs justement des espoirs même de l'école française. Manet et Degas, contrairement à Monet et Pissarro qui fuient, Manet et Degas restent à Paris, subissent le siège sous l'uniforme de la garde nationale, tout comme Caillebotte. Et c'est, on l'a oublié aussi, une expérience politique. Avant même que la Commune ne soit déclarée, dès les premiers jours du siège, c'est très frappant chez Manet et son frère, la guerre, la défaite du Second Empire, est pour eux l'occasion d'imaginer la restauration de la République. Là encore, on ne peut pas imaginer que tout ça ait laissé Caillebotte indifférent. Il y a chez Caillebotte, à partir des années où il peint ses premiers grands tableaux, la volonté de traduire cela, à traduire non seulement la Renaissance du pays, mais la Renaissance républicaine, à un moment où, précisément, toute une jeunesse décide de contribuer à la relève du pays.
Le train, Pierre Wittmer, il a une certaine importance dans cette histoire. Caillebotte naît en 1848, viennent alors d'être créées les premières voies de chemin de fer qui permettent de s'échapper de Paris.
Oui, c'est la ligne du Paris-Lyon Méditerranée qui avait été faite avec le premier débarcadère à la gare de Lyon. Les premières gares, c'est essentiellement parce qu'à l'époque, les gens avaient des résidences secondaires où ils passaient une bonne partie de l'année pendant la période estivale. On quittait les hôtels particuliers et les appartements à Paris et on s'installait pendant 2 mois ou 3 mois dans ces propriétés de campagne.
Dans ce contexte, le père de Caillebotte achète en 1860 une propriété ailleurs.
Qui était accessible par la gare de Montgeron à l'époque, où on va arriver maintenant.
Et à la gare suivante, un silence tranquille, pénétrant et large jusqu'aux astres.
Hier, c'est vraiment la maison, la propriété de campagne de la famille Caillebotte.
Marina Ferretti.
C'est la propriété où le jeune Caillebotte va découvrir la nature, va peindre ses premiers motifs d'après-nature et en plein air. C'est la propriété de son enfance. Elle est acquise par son père en 1866. C'est une très grande et très belle propriété avec une maison très élégante, néoclassique, entourée d'un très grand jardin, type peu romantique, jardin à l'anglaise, très organisé, avec des ce qu'on appelait des fabriques, une glacière, une volière, le chalet suisse, enfin, tous des petits monuments. Puis à l'arrière de tout ça, qui est très organisé, un magnifique jardin potager qui nourrit bien sûr la famille et ceux qui en dépendent. Et c'est certainement là que Caillebotte va cultiver son goût pour la nature, son goût pour les jardins, bien entendu, également, qui va vraiment prendre de plus en plus d'importance au fil de son existence.
Et je dirais même que ces natures mortes sont pleines de cet appétit. Elles sont d'ailleurs très dérangeantes, beaucoup plus dérangeantes que toutes les natures mortes de la peinture impressionniste, parce qu'elles relèvent à la fois de ce goût pour les choses, ce goût pour les victuailles, ce goût pour la pâtisserie, les bonheurs de la table, de la bouche. Et en même temps, elle nous confronte avec notre animalité, la cruauté même, qui est celle même du mangeur au XIXe siècle. Les fruits à l'étalage, ça c'est un tableau extraordinaire qui semble même presque annoncer le pop art. Et ce qui est formidable, c'est que la nature morte n'est plus du tout une nature morte, mais bien au contraire, un instantané, Caillebotte nous projette sur l'étalage d'un primeur ou d'un et par ailleurs il y a également ces cadavres d'animaux, ces lapins écorchés qui nous renvoient à notre animalité commune avec justement la viande dont nous nourrissons, mais aussi avec sa part sombre. C'est un des rares à l'exprimer d'une manière aussi évidente.
Ça c'est une perspective que Gustave a peint, non?
Oui. Là, on est à l'extrémité de la pelouse. À l'ouest, des jardins d'utilité, potager, fleuriste. C'est un endroit stratégique pour Gustave, puisqu'il y a d'abord un autoportrait qui a été fait là sur un banc. Et ici, indépendamment de l'autoportrait, il y a eu toutes ces études de pastel, des perspectives assez originales de fleurs sur ces murs des jardins d'utilité. Là où on se trouve, il y a également aussi cette superbe toile de la vache. Venez voir.
Une vache en bois rouge à cajou clair, ornée d'un mufle extraordinaire à rallonge et placée sur un tapis vert cru. Elle est accompagnée d'une petite chèvre en feutre qui se tient discrètement dans le coin de la toile pour ne pas troubler le regard qui s'attache forcément sur sa compagne. J'ose le répéter, c'est un chef-d'œuvre. Cette vache fantastique, grandeur nature ou peu s'en faut, vaut seul le voyage à la salle du 28 avenue de l'Opéra. Bertal, l'artiste, juin 1879.
Quand on est enfant et qu'on est dans une propriété comme celle-ci, avec un jardin paysager aussi extraordinaire, avec ses bosquets et ces scènes paysagères qui ont été faites, parce qu'il y a des recherches aussi d'associations d'arbres pour leurs couleurs, pour donner de la profondeur au parc et autres, ça marque forcément un adolescent et ça marque forcément les enfants.
À la mort de ses parents, Martial Caillebotte et son frère Gustave, célibataires tous les deux à l'époque, ils vendent l'hôtel particulier parisien, ils vendent la propriété d'hier. Mais ce qui est merveilleux, c'est que juste avant la vente de la propriété, Gustave Caillebotte peint une série de tableaux qui rappellent toutes les activités, tous les jeux, toutes les activités nautiques, les baignades, le canotage, le jardinage, toutes les activités liées à cette propriété merveilleuse de son enfance. Et c'est vraiment, on sent que là, c'est une page qui se tourne pour lui. C'est la page des souvenirs d'enfance.
Portraits à la campagne. Toute une famille, mère, fille, grand-mère, amis, cousant ou tapissant honnêtement auprès du pavillon blanc dont les fenêtres entr'ouvertes envoient des bouffées de parfums bourgeois, sont d'un achevé qui m'effraie légèrement. Sur le côté, les tilleuls, heureusement symétriques, se perdent, ombrageant des corbeilles fleuries où les couleurs crûment rouges des pélargoniums bordés d'herbes ressortent en répandant comme une clarté gaie derrière ce recueillement terne de provinciales ennuyées. Jacques, l'homme libre, 12 avril 1877.
On décrit souvent cette peinture comme une représentation classique de l'ennui bourgeois, très présent dans la littérature d'alors. dans des livres qu'il lit sûrement et qui peuvent nous aider à comprendre sa vie. Il y a à l'époque une critique très forte de la famille bourgeoise, du mariage bourgeois, de toute cette pression sous la Troisième République, celle de devoir se marier, d'avoir une famille. Un peu comme plus tard aux États-Unis dans les années 1950. Or, il y a dans le même temps un contre-mouvement auquel Caillebotte participe peut-être, en réaction à cette mythologie d'une vie de famille heureuse et épanouie qui comblerait toutes les attentes. Et cette idéologie-là, Caillebotte n'y adhère pas. Tout comme Flaubert, Maupassant ou Zola. Ils déconstruisent tout cela dans une veine naturaliste.
Est-ce qu'on sait si il avait un atelier dans cette maison ?
Oui, alors ça c'est au second.
Et tout en haut de la maison ?
Bon, là on se trouve dans une pièce du second étage qui a priori est orientée au nord et qui a vu donc sur le centre du village d'hier. On connaît certains travaux préparatoires, notamment des études sur les perspectives qui rejoignent des préoccupations d'optique.
Caillebotte reprend les possibilités dans la perspective qui sont des possibilités négligées depuis des siècles.
Kirk Vernadou.
Et en cela, il devance même la photographie. On ne retrouve pas aucune photographie des années 70 qui s'y osait en point de vue de composition spatiale que les tableaux de Caillebotte.
Parce que l'angle de vue qu'il adopte est très particulier. D'ailleurs, il a choqué.
C'est une sorte de grand angle, justement, qui agrandit énormément les objets qui sont proches et qui diminue énormément les objets qui sont éloignés. Mais Caillebotte a décidé de le faire. Et Degas également, ils ont décidé de prendre les possibilités de perspective qui étaient des possibilités pour les autres à éviter.
Au moment où Caillebotte arrive sur scène, les conditions d'exposition sont vraiment très restreintes pour les artistes. La voie pratiquement unique, c'est exposer au salon officiel, se faire reconnaître de cette manière. Or, à l'époque, quand Caillebotte se présente pour la première fois au salon officiel, l'institution commence à être contestée par des jeunes artistes qui, eux, veulent montrer qu'ils sont porteur d'une autre idée de ce qu'est la peinture, qui sont notamment les impressionnistes, mais pas seulement, qui veulent faire progresser la peinture, qui sont révolutionnaires dans l'âme, qui ne veulent plus peindre le paysage historique tel qu'il était peint auparavant, mais le paysage tel qu'il le voit évoluer avec les cheminées d'usines qui apparaissent, avec le mouvement de la Seine, avec les effets de lumière, proposer quelque chose de tout à fait différent, sans plus s'occuper du tout de ce qui était établi jusque-là.
Il y aura peut-être beaucoup à espérer d'un mouvement de peintres bizarres qui commence maintenant sous le nom d'école des impressionnistes et a pour caractéristique une peinture claire, dans le genre de celle qu'on fait beaucoup maintenant en Belgique, mais plus heurtée, plus élevée. C'est plein de choses grotesques, mais il y a trois bons hommes, Caillebotte, Degas et Monet, qui sont d'une jolie force et très artistes. Félicien Rops, lettre à Armand Dandois.
Il est un élève de Bonnat. Léon Bonnat dirigeait un atelier privé dans le Paris des années 1870. C'était un peintre très célèbre à l'époque. Il s'était formé en Espagne. Il avait eu pour ami Degas, Gustave Moreau dans les années du Second Empire. C'était un artiste qui avait fait carrière en dehors des honneurs. Portraitiste très recherché. Et donc, il pousse aussi... J'imagine le jeune Caillebotte à s'inscrire à l'école des Beaux-Arts, je crois en 1873. Et donc, à ce moment-là de sa carrière, le jeune Caillebotte se destine à la peinture d'histoire et au salon. Il attend, la reconnaissance des pouvoirs publics. Et c'est une toute autre carrière qui va s'ouvrir à lui à partir d'un refus. C'est amusant de penser que le refus des raboteurs de parquet en 1875... au fond, le condamne à devenir un peintre indépendant et à s'accomplir dans les marges du salon officiel.
Les impressionnistes l'accueillirent avec chaleur, comme une recrue précieuse. Il leur apportait l'appoint de la résistante jeunesse, cette jeunesse d'âme et de corps, opiniâtre au mécompte, rebelle au désenchantement, victorieuse de la réalité soumise. Il entrait dans la mêlée en enfant gâté, assuré contre la misère, fort de cette double force, la volonté servie par la fortune. Il eut cet autre courage, qui n'est pas le plus commun, de la richesse laborieuse. Et j'en connais peu qui aient autant que lui oublié qu'ils étaient rentiers pour se rappeler seulement qu'ils se devaient d'être célèbres. Jules Monjoyeux, Le Gaulois, 18 avril 1879.
Dans un premier temps, Caillebotte peint essentiellement les rues de Paris, ce Paris haussmannien où il habite. C'est un Paris tout neuf qu'il peint, c'est vraiment le Paris qui est en train de se construire, à se développer, dont il met en valeur le caractère très vide, très neuf, très minéral, très... Voilà, ce n'est pas du tout le Paris que montre un Monet ou un Renoir, par exemple. Ce n'est pas le Paris des bals, des quêtes de Seine, des choses comme ça.
C'est l'époque de sa vie où il a fait deux, trois tableaux des grands boulevards de Paris, des énormes dimensions. Les figures sont grandeur nature. Et ces tableaux-là lui ont coûté un travail énorme de préparation, des perspectives complexes, des dessins de figures par des centaines. Ces tableaux-là étaient des constructions, perspective par perspective, ligne par ligne. C'est la même ambition de marier une passion pour le fugitif, pour ce qui est contemporain, pour la lumière qui fuit, pour les sensations immédiates, à une technique du musée.
Ce qui l'intéresse, c'est le caractère très neuf de cette cité, c'est une ville nouvelle. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est le caractère sociologique. Il peint, il est un des premiers à peindre les ouvriers, et il s'intéresse véritablement, d'une part, à leurs vêtements, à leurs attitudes, à leurs gestes. Et on connaît des dessins qui montrent à quel point il observe le geste des raboteurs, le geste des peintres en bâtiment.
Les raboteurs de parquet, c'est pas simplement un instantané du milieu prolétaire urbain des années 70, c'est aussi une manière de dire la France est en train de se retrousser ses manches. C'est un tableau physique, un tableau plein d'énergie masculine, dans un moment où, précisément, le pays a besoin de retrouver confiance en lui.
Il décrit le milieu de cette bourgeoisie conquérante, qui construit d'ailleurs ce Paris neuf, hein, ceux qui commanditent, les entrepreneurs, les architectes, les financiers surtout, sont issus de cette grande bourgeoisie qu'il connaît bien et qui vraiment ont remplacé l'ancienne aristocratie, une classe nouvelle qui est sûre de ses goûts, sûre de ses ambitions. Il peint aussi ce qu'on appelle ses élégantes et qui sont parfois des femmes qui ont une vie un petit peu... Elles aussi sont ambitieuses et conquérantes. Ce sont des femmes déjà plus libres, je dirais, que la bourgeoise qui, elle, reste encore chez elle et qui ne travaille pas encore. Et que, voilà. Donc, tous ces personnages qui ont d'ailleurs inspiré aussi Maupassant, qui ont inspiré Zola, c'est vraiment une nouvelle société et c'est cette société-là qui est à l'origine de celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Dans cette nouvelle société, donc, le jeune Caillebotte, grand bourgeois, semble se chercher une place. À la suite de ces raboteurs de parquet qu'il avait observés l'année précédente dans le huis clos de l'appartement familial, il décide de sortir dans la rue. Oh, pas bien loin, comme souvent, à quelques encablures de chez lui, sur le pont de l'Europe, une récente et imposante structure de poutrelles métalliques surplombant les voies ferrées de la gare Saint-Lazare. Sur ce pont, s'avançant vers nous, un bourgeois en haute forme, et une jeune élégante sous une ombrelle. Une étude préparatoire au tableau nous les montre marchant ensemble, côte à côte. Mais dans la version définitive, le peintre a comme raboté la robe de la femme. Résultat, celle-ci paraît évoluer en retrait, seule. Dans cette société si codifiée, une femme comme il faut ne marche pas seule dans la rue. C'est forcément une prostituée, une demi-mondaine. Gustave aime bousculer les codes. Et puis à y regarder de plus près, cet homme aux hautes formes ressemble drôlement à Caillebotte lui-même. Ceci dit, plus que sa coquinée hors de son milieu social, ce qui semble surtout l'intéresser sur ce pont, c'est un peintre en bâtiment, accoudé à la rambarde d'acier, et qui contemple les trains et la gare Saint-Lazare. La peinture comme unique obsession.
Le réalisme dans lequel il s'inscrit n'a pas vocation justement à exalter la beauté des corps. Il a vocation à les regarder de près. Il a presque vocation justement même à ramener j'allais dire tout ce qui relevait de l'exaltation, du merveilleux, de l'idéalisme, à le ramener dans l'espace justement de l'imperfection, du réel. Mais malgré ça, malgré l'agenda réaliste, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, il traduit une forme d'érotisme par l'effort et par sa science de la composition. Je dirais même par la posture fringante qu'il donne à ses rameurs, qu'il donne à ses nageurs, qu'il donne aussi à ses grands bourgeois qu'il peint dans leurs intérieurs. Et il érotise ce que les autres, finalement, n'ont jamais érotisé. Et c'est aussi en cela qu'il est un artiste énigmatique.
D'abord, sa fortune avait créé entre lui et les autres, pauvres pour la plupart, une sorte de halo de gêne, voire de défiance, qu'il n'eut pas de peine à dissiper. Il dépouilla pour cela toute vanité d'artiste, sut être le camarade sans façon, l'ami à la main généreuse, allant au-devant d'une demande embarrassée, réconfortant le solliciteur par son bon accueil, son humeur gaillarde, ses lazzi de brave homme heureux de vivre. Tous ceux qui l'ont connu le qualifient d'un mot, c'était un cœur d'or. La peinture qu'il achetait, il la choisissait de préférence parmi les refusés d'amateurs. Personne n'en veut ? Bon, je l'emporte. Et c'est ainsi que sa collection se forma. Adolphe Tarabant, Bulletin de la vie artistique, 1er août 1921.
Il est convaincu que là est l'art, je pense, et que vraiment la peinture contemporaine intéressante, c'est celle-là. Et c'est intéressant de voir à quel point il sélectionne véritablement dans sa collection. Il a sélectionné les meilleurs, pas ceux qu'il connaissait nécessairement, pas ceux dont il était le plus proche nécessairement, mais il a sélectionné essentiellement Monet, qui est certainement un des meilleurs. Renoir, même chose. Pissarro également, beaucoup. Il n'a, par exemple, jamais acheté un tableau de Bonnat, qu'il admirait certainement quand même. Il a toujours dit qu'il était élève de Bonnat, il ne s'en est pas caché. Il n'a jamais acheté un tableau de Denitis, pour lequel il avait manifestement de l'affection, et qui n'est pas un mauvais peintre. Il n'a pas acheté de Berthe Morisot non plus. Mais il a acheté les Degas, alors que visiblement Degas l'agaçait. Mais il reconnaissait qu'il avait un talent absolument extraordinaire.
C'était fait d'un esprit très intelligent et avec un œil. Quand on voit les tableaux qu'il a achetés, le Moulin de la Galette de Renoir, le Stack de Cézanne, les grands baigneurs de Cézanne, qui est maintenant au Bounds Foundation à Philadelphie, ou bien le balcon de Manet qu'il a acheté à la vente après mort de Manet, la vente posthume, on voit que ce n'était pas une personne qui dépensait son argent dans un esprit de charité seulement. C'est-à-dire qu'il était collectionneur très calé, il avait un œil, un goût précoce pour les tableaux.
Ce grand bourgeois qui était servi et qui était choyé s'est complètement investi dans ses expositions. Il a, la plupart du temps, trouvé les locaux. Il a envoyé les invitations. Il a encadré lui-même des tableaux. Donc, il a été la cheville ouvrière complètement de ces expositions impressionnistes. Et beaucoup disent que le succès relatif de certaines expositions impressionnistes sont dus beaucoup à l'activité de Caillebotte.
Mon cher Monet, je me suis occupé de vous aujourd'hui, puisque je vous envoie l'argent plutôt que je ne vous l'avais dit. Tâchez donc de ne pas vous décourager comme cela. Puisque vous ne travaillez pas, venez à Paris, vous avez le temps de ramasser tous les tableaux possibles. Je me charge de Monsieur de Béliot. S'il n'y a pas de cadre au drapeau, je me charge du cadre. Je vous réponds de tout. Envoyez-moi un catalogue, mettez le plus de toiles possible. Je parie que vous aurez une exposition superbe. Vous êtes toujours le même, vous vous découragez d'une manière effrayante. Je passerai la semaine à courir pour vous si vous le voulez. À vous, Caillebotte. Mon cher ami, je viens de recevoir vos deux toiles. Crevez, toutes les deux. Est-ce par vous ? Enfin, je les ai données à arranger. Demain, elles seront à l'exposition. J'ai presque vendu l'une, la plus grande, à Miss Cassatt. Elle me charge de vous demander le prix.
On voit vraiment que c'est un garçon très impatient.
Caillebotte.
C'est quelqu'un de très décidé, de très déterminé. Et je pense qu'il doit dire, il faut faire ça, ça coûte de l'argent. Je prendrai cela à ma charge. Un petit peu comme plus tard, il a payé les réverbères de l'éclairage du petit John Villiers, parce que évidemment, il s'était absolument exaspéré de la lenteur administrative et qu'il s'est dit, bon, c'est quelqu'un qui, visiblement, a un rapport avec l'argent. L'argent est fait pour servir un dessin, un projet.
«
La mort de son jeune frère René est un tournant dans la vie de Gustave. Quand on regarde la chronologie, René meurt à 26 ans le 1er novembre 1876 et deux jours après, le 3 novembre, Gustave écrit à 28 ans un testament qu'il maintiendra à peu près inchangé jusqu'à sa propre mort. Donc vraiment c'est un signe de ce que il a senti, que quelque chose basculait dans une vie qui jusque-là était relativement simple, parce que les trois frères habitaient dans l'hôtel particulier de la famille, se déplaçaient à Hyères pour les villégiatures. Enfin, il y avait visiblement une vie assez austère, stricte, mais aisée, et en tout cas opulente. Donc brusquement, cette mort très injuste et brutale lui apparaît certainement comme quelque chose qui va sûrement changer un petit peu sa vie.
Je désire qu'il soit pris sur ma succession la somme nécessaire pour faire en 1878 et dans les meilleures conditions possibles l'exposition des peintres dits intransigeants ou impressionnistes. Il est assez difficile d'évaluer aujourd'hui cette somme. Elle peut s'élever à 30, 40 000 francs, même plus. Les peintres qui figureront dans cette exposition sont Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Sisley, Mademoiselle Morisot. Je nomme cela sans exclure les autres.
En 3 ans, le père meurt, la mère meurt, puis le jeune frère René, qui est entre Martial et Gustave, meurt. Il pense qu'il va mourir très vite, ce qui va, à mon avis, aussi l'amener à cette hyperactivité.
Il y a chez lui une adhésion à la vie. Je crois qu'il faut y insister. Elle passe par la pratique du sport. Aujourd'hui, ça nous semble anodin. Mais jusque dans les années 1920-1930, le sport est une chose qui, au fond, n'est pas vraiment familière à la culture française. Combien d'intellectuels vont plaider pour une pratique plus intensive du sport en France, comparant les retards de la France à ce qui se passe en Angleterre, à ce qui se passe en Allemagne. Et à l'évidence, il y a chez Caillebotte une compréhension de cela. Non seulement il pratique le sport, il pratique la voile, il est très attaché à tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a représenté des hommes pratiquant la voile ou la natation comme s'ils étaient des héros de la mythologie, dans le grand format, en pied, et d'une manière totalement positive. Il y a vraiment une adhésion complète et une unité parfaite entre l'homme et la peinture. D'un côté, cette exaltation des corps et de l'énergie, c'est la part vitale. Et de l'autre, effectivement, l'exploration de zones plus obscures, plus cruelles, et sans doute une part de mélancolie.
Celui-là est un grand peintre. La série des œuvres qu'il expose cette année le prouve. Il y a parmi elles un simple chef-d'œuvre. Le sujet, oh mon Dieu, il est bien ordinaire. Une dame nous tourne le dos, debout, à une fenêtre, et un monsieur assis sur un crapaud, vu de profil, lit le journal auprès d'elle. Voilà tout. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est la franchise, c'est la vie de cette scène. La femme qui regarde désœuvrer la rue palpite, bouge. On voit ses reins remuer sous le merveilleux velours bleu sombre qui les couvre. On va la toucher du doigt. Elle va bâiller, se retourner, échanger un inutile propos avec son mari à peine distrait par la lecture d'un fait divers. Cette qualité suprême de l'art, la vie, se dégage de cette toile avec une intensité vraiment incroyable. Puis j'ai parlé de la lumière, c'est ici qu'il faut la voir. La lumière de Paris, dans un appartement situé sur la rue. La lumière amortie par les tentures des fenêtres, tamisée par la mousseline des petits rideaux. Au fond de la Seine, par la croisée d'où s'épand le jour, l'œil aperçoit la maison d'en face, les grandes lettres d'or que l'industrie fait ramper sur les balustres des balcons, sur l'appui des fenêtres. Dans cette échappée sur la ville, l'air circule. Il semble que le lourd roulement des voitures va monter dans le brouhaha des passants battant le pavé, en bas. C'est un coin de l'existence contemporaine, fixé, tel quel. Le couple s'ennuie, comme cela arrive dans la vie, souvent.
Huysmans, L'art moderne, 1883.
La peinture de Caillebotte, elle est parsemée d'indices visuels, une série d'indices
Xavier Bézard.
Bizarres, mystérieux, qui ont du sens, sauf que il n'y en a pas assez, ou ils ne vont pas assez dans le même sens pour qu'on ait une conclusion définitive de ce que a voulu montrer Gustave Caillebotte. C'est-à-dire le spectateur, à la fin, fait son film lui-même. C'est pour ça que je dis que la peinture de Gustave Caillebotte, elle a un ferment surréaliste déjà en elle. Et d'ailleurs, il va créer des situations absurdes par des jeux de perspective. Alors ça, c'est par exemple la vue intérieure avec la femme lisant. On a un personnage masculin qui est au fond de la pièce, allongé sur un canapé en train de lire, sur la partie gauche de la toile, et on a une femme en très gros plan en train de lire le journal sur la partie droite. Elle est démesurée par rapport au personnage masculin. Et ce qui nous aurait aidé à accepter le rapport de taille absurde, ça aurait été une ligne perspective, or il n'y en a pas. Et ça donne cette situation absurde où les critiques ont dit « Ah, le petit mari de M. Caillebotte ». Voilà. Donc on a l'impression que la femme est monstrueuse et que le mari n'a plus qu'à obéir à la femme. Ce qui est assez drôle, évidemment, il le fait exprès.
Vous pensez donc, qu'il le fait exprès ?
Oui, c'est quand même quelqu'un qui passe sa vie à se poser des questions, qui interroge tellement son époque qu'il organise des dîners au Café Riche d'intellectuels, d'artistes, etc., où il passe la soirée à débattre des nouvelles inventions, de l'art.
Il faut avouer que la tablée des impressionnistes était assez turbulente et qu'il y avait chez ces hommes la belle humeur des colliers en liberté. Les discussions étaient parfois montées de ton, surtout entre Renoir et Caillebotte. Le premier, nerveux et sarcastique, avec sa voix railleuse, se faisait un malin plaisir d'exciter le second, sanguin et irascible, dont le visage expressif passait du rouge au violet et même au noir lorsque ses opinions étaient heurtées. Il montrait alors une fougue qui allait jusqu'à une colère d'ailleurs inoffensive. Le débat comportait non seulement des opinions sur l'art et la peinture, mais surtout les sujets de littérature, de politique, de philosophie, vers lesquels s'élançait la bonne foi de Caillebotte, grand liseur de livres, de revues et de journaux. Renoir s'était mis au courant de tout en achetant un dictionnaire encyclopédique où il trouvait des arguments pour coller Caillebotte. Gustave Geffroy.
Alors, il y a eu plusieurs tensions au sein des impressionnistes. D'abord parce que il y avait toujours le choix d'exposer au salon officiel ou non. Certains de ses amis, lors des différentes expositions, ont préféré essayer d'exposer au salon officiel plutôt que d'exposer au salon impressionniste. C'est le cas notamment de Degas, c'est le cas notamment de Renoir et de Monet. Ils ont à chaque fois préféré, surtout un petit peu plus tard, lorsque la peinture était un petit peu moins décriée, ils ont toujours essayé d'exposer au salon officiel. Mais Caillebotte, par exemple, lui, depuis son refus de 1875 de son tableau Les raboteurs de parquet, s'est toujours refusé d'exposer, quel que soit le tableau, au salon officiel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix des peintres. C'est-à-dire que Caillebotte estimait que le mouvement impressionniste devait être extrêmement qualitatif et non pas quantitatif. C'est-à-dire que il pensait que le choix des peintres impressionnistes était relativement limité, et c'était essentiellement les peintres dont on a parlé, Monet, Manet, Renoir, Sisley, Pissarro, et pas d'autres peintres qu'il considérait comme mineurs. Alors que Degas, par exemple, lui estimait qu'il fallait faire parler d'eux par un grand choix de peintres et par un grand choix de peintures, et il a donc voulu accueillir des peintres que l'on considérait comme mineurs. Donc ça, c'était un grand sujet de discorde, notamment entre Degas et Caillebotte, sur le choix des peintres.
Caillebotte, il est très affecté par cette rupture. Il a investi son temps, son argent, toute son énergie dedans, et il se sent presque trahi. Hein. Bon, outre le fait que le groupe impressionniste, c'est quand même un espèce de groupe contre nature de gens qui ont des égos assez démesurés, et donc forcément, il n'y en a qu'un qui n'a pas ça, Bah, c'est Gustave Caillebotte. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré, c'est quelqu'un qui se projette dans un groupe. Alors, son problème à lui, c'est que il est tellement dans une vision du groupe qu'il oublie que les autres sont pas forcément la même vision de ce groupe-là.
Mon cher Pissarro, mon opinion est que faire l'exposition sans Renoir et Monet, c'est la mal faire. Quand même nous serions d'accord, nous n'arriverions pas à exposer. Je suis écœuré. Je me retire sous ma tente. J'attends des jours meilleurs. Tout à vous, Gustave Caillebotte.
En 1887, Martial se marie. Gustave rachète les parts de Martial et donc devient l'unique propriétaire de la propriété du petit Gennevilliers. C'est une période très particulière dans sa vie. C'est la fin des expositions impressionnistes. Il n'a pas participé à la dernière parce que pour cause de dissension au sein du groupe. Lui n'a jamais eu vraiment besoin d'exposer. S'il s'est battu à ce point, c'est surtout pour ses amis, mais lui n'a jamais eu vraiment besoin de reconnaissance. Et donc, il se retire. Il se retire comme beaucoup de peintres, d'ailleurs. Hein. Monet, en 83, s'est installé à Giverny. Pissarro, lui, s'est installé à Iragny, Sisley s'est installé à Moret. On a vraiment une dispersion du groupe impressionniste à cette époque-là. Tout le monde cherche un endroit à lui, loin des tracas de la vie de Paris, et où il pourra travailler de manière sereine. Et donc, Gustave, lui, choisit le petit Gennevilliers, décide que le petit Gennevilliers devient véritablement son adresse principale. C'est ce qu'il annonce à Monet, d'ailleurs, dans une lettre triomphale. Et il crée un petit monde, véritablement, un monde miniature. D'une part, le jardin potager, d'autre part, le fruitier, les fleurs et le bois. Et il fait construire un très grand atelier où il va pouvoir peindre et développer ses projets de peinture. C'est pour ça que quand on dit qu'à l'époque du petit Gennevilliers, Gustave Caillebotte peint beaucoup moins et s'intéresse essentiellement à la navigation, c'est faux.
Juin 1883. Mon cher ami, depuis 2 mois que je suis ici, j'ai travaillé autant que j'ai pu, mais tout ce que je fais est bien mauvais. Je suis en plein dans le paysage. Il me semble que je n'ai jamais vu un printemps si beau. J'ai voulu faire toute espèce d'arbres en fleurs, mais cela dure si peu et c'est bien difficile décidément. Renoir est ici depuis 3 semaines ou 1 mois. Il fait le portrait de Charlotte, qui est très jolie. Justement, au moment où j'ai reçu votre lettre, nous parlions de vous et nous nous disions « Monet doit en abattre joliment en ce moment ». Il paraît que c'est le contraire, mais quelle belle année tout de même. Tout à vous, Caillebotte.
C'est quelqu'un qui est très intéressant parce qu'il est, à mon avis, extrêmement moderne, beaucoup plus qu'on l'a pensé. Et comme il est libre, parce qu'il ne dépend pas de conditions financières, socialement, il est très libre aussi. Hein. Il vit comme il a envie de vivre. Il est en ménage avec une dame dont on connaît fort peu de choses. Elle s'appelle Charlotte Berthier, mais on lui connaît d'autres identités.
Charlotte Hagen, on ne sait pas, c'est son nom patronymique, semble-t-il.
Anne Distel.
Qui est sa compagne, elle vit indubitablement à Gennevilliers, elle apparaît d'ailleurs dans quelques peintures, nous connaissons bien ses traits, puisque Renoir en a fait un portrait qui est maintenant à la National Gallery de Washington. Donc c'est elle est plus jeune que Gustave, et c'est une dame replète, plaisante, et qui semble-t-il... est restée la compagne permanente de Caillebotte jusqu'à la fin de sa vie.
Mais il ne l'épouse pas.
Il ne l'épouse pas. Selon les règles de la classe sociale à laquelle appartient Gustave Caillebotte, on n'épouse pas sa maîtresse. En revanche, il lui assure une vie décente par testament, en lui constituant une petite pension. Était-elle actrice, chanteuse, musicale, je ne sais. On peut l'imaginer facile à vivre, plutôt souriante, régnant sur une domesticité suffisante pour qu'elle n'ait absolument aucune espèce de part aux activités ménagères les plus pénibles. On connaît la maisonnée, hein, il y a des jardiniers, il y a quelqu'un qui aide, il y a un matelot, il y a des domestiques, une femme et sa fille, donc le quotidien est assuré. Donc Charlotte est là, probablement assez confortable, mais disons, quand même assez isolée dans cette campagne, parce que Gennevilliers, Argenteuil, n'est qu'à quelques pas de la gare Saint-Lazare, mais je ne sais pas si elle fait tellement les allers-retours, alors que lui, Gustave, vient fréquemment à Paris. Donc, viennent-ils en couple? Vont-ils au restaurant ensemble? Ça, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement imaginer, ou c'est peut-être totalement faux. Mais on a si peu d'indications que... Elle reste une espèce de point d'interrogation.
Ne connaissez pas ma chère. Il me dit des choses merveilleuses.
Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas de portrait? Il a fait pourtant plein de portraits de ses amis, de ses proches, de sa famille.
C'est vraiment par respect, c'est pour qu'on ne la reconnaisse pas. Ce n'est pas facile à cette époque-là de vivre de manière maritale sans être mariée. C'est mal considéré. Et ça, c'est une chose qu'on voit aussi dans d'autres tableaux, par exemple Bonnard. Quand il peint Marthe Bonnard, eh bien, on la voit nue, on voit son corps, hein, mais elle est... tout à fait méconnaissable. On ne voit jamais son visage. Elle a toujours la tête baissée ou tournée. On ne la reconnaît pas. Et je pense que c'est pour respecter véritablement sa réputation d'une certaine manière. Elle est là, mais on ne peut pas l'identifier. Seuls les amis, les proches savent qui c'est.
Tout le monde reste très évasif sur la relation entre Gustave et Charlotte. En tout cas, la femme de Martial ne supporte pas déjà tant ce peintre beau-frère qui ne respecte pas les codes bourgeois et qui s'affiche en plus avec une femme de basse condition. Marie Minoret donc, et Martial Caillebotte voient Gustave et Charlotte de façon de plus en plus espacée. En 86, Martial Caillebotte, qui ne va plus être avec son frère tous les jours, va ranger ses partitions et ne va plus jamais composer. C'est une période où Gustave peint assez peu.
Mardi 11 novembre. Mon cher ami, je fais un stanopia à Auréa qui est en fleur depuis ce matin. Et comme la fleur ne dure que 3 ou 4 jours et ne revient que dans un an, je ne peux la quitter. Excusez-moi donc auprès de Mirbeau. J'aurais eu bien du plaisir à vous voir tous deux.
Giverny par Vernon.
À vous, Caillebotte.
Mon cher ami, je vous adresse par chemin de fer en gare d'Argenteuil un petit panier de prunes. Elles sont peu abondantes cette année. Je vous envoie ce que nous avons de mieux. Claude Monet, 4 septembre 1887.
Je pense que c'est à cette époque-là qu'il va d'une part se rapprocher dans un premier temps de l'art de Monet et dans un deuxième temps véritablement orienter sa peinture vers quelque chose de très personnel, de très original, qui ne ressemble ni à Monet, ni à Banet, ni à Pissarro, ni à qui que ce soit. Et là, il développe une peinture très libre, très colorée. Son sujet devient de plus en plus répétitif, je dirais, dans les dernières années, parce que c'est essentiellement le jardin qu'il a composé. Et avant que Monet lui-même s'inspire de son propre jardin de manière, je dirais, systématique, obsessionnelle même, eh bien, Caillebotte a fait la même chose. C'est-à-dire que là, ce sont des peintres qui inversent. Un peintre paysagiste, normalement, trouve un paysage et le peint. Et dans le cas de Caillebotte, comme dans le cas de Monet, nous avons deux peintres qui créent un paysage et qui ensuite le peignent. C'est très différent. Certains tableaux me font penser à certaines descriptions de jungle du douanier Rousseau. C'est aussi quelque chose que Gauguin ira chercher à Tahiti. Enfin, c'est vraiment... Ils organisent la nature à la manière dont ils voudraient la représenter en peinture. Monet a pu développer cela beaucoup plus longuement, bien sûr, avec le jardin d'eau de Giverny, que Caillebotte, qui meurt en 94, alors que Monet en est à planter ses premiers nymphéas dans son jardin d'eau. Caillebotte a esquissé quelque chose... Et puis, personne ne l'a vu pratiquement, ce qu'il a fait là, parce que comme il n'exposait plus à cette époque-là, comme il ne s'est pas du tout préoccupé de l'avenir de sa propre peinture, de son art, eh bien, tout ça est retombé dans l'oubli, resté dans les collections privées de ses héritiers qui, voilà, n'ont pas eu l'occasion de montrer non plus cette production. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on découvre encore... Dans un terrain aussi étudié que l'impressionnisme, on découvre encore des choses qu'on n'avait pas perçues jusqu'à présent. Et au détour d'une œuvre qui ressurgit, on comprend que finalement, Caillebotte a été beaucoup plus important qu'on ne l'avait dit jusque-là et qu'il a joué un rôle plus important, notamment auprès de Monet.
Mon cher Théo, J'ai lu dans l'Intransigeant l'annonce qu'il y aura une exposition des impressionnistes chez Durand-Ruel. Il y aura des caillebottes dont je n'ai jamais rien vu, et je voulais te demander de m'écrire ce que c'est. Vincent Van Gogh.
On dit qu'il est mort d'une congestion cérébrale, c'est-à-dire qu'il avait pris froid dans son jardin en février, donc c'est sûr que c'était l'hiver, l'hiver était froid, et en un jour ou deux à peu près, il est parti, donc il est mort le 21 février 1894.
Il m'a été donné, au lendemain de la mort de Gustave Caillebotte, de faire le rapide voyage d'Argenteuil et d'entrer dans cette maison où tout disait encore la présence vivante de la veille. À croire que le maître du logis allait rentrer, parcourir les pièces, s'asseoir, causer, reprendre ce livre à la page de la lecture commencée, travailler à cette toile encore fraîche sur le chevalet. Tout est aujourd'hui semblable à ce qui était hier, hormis que l'habitant n'est plus là. Il est entré, il est sorti, et rien n'est changé du décor de son existence. La maison a la même gaieté, entre les champs et la Seine, en face d'Argenteuil. Les bateaux se balancent sur l'eau soyeuse. Tout est doré par le soleil du nouveau printemps. Dans le jardin, au long des plates-bandes, dans les clairières du bois minuscule, partout, la verdure déplie ses bourgeons. Tout ce petit monde végétal, étiqueté, choyé, adoré par Caillebotte, est exact au rendez-vous qui lui avait été donné. « Vous verrez mon jardin au printemps », disait-il à ses amis au dernier dîner des impressionnistes. Le printemps est venu, le jardin se part pour l'éternelle fête. Un chien triste parcourt les allées. Gustave Geffroy.
Je donne à l'État les tableaux que je possède. Seulement, comme je veux que ce don soit accepté, et le soit de telle façon que ces tableaux n'aillent ni dans un grenier, ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est nécessaire qu'il s'écoule un certain temps avant l'exécution de cette clause, jusqu'à ce que le public... Je ne dis pas comprenne, mais admette cette peinture. Faite en double, à Paris, ce 3 novembre 1876, Gustave Caillebotte.
Tous les jours, au lieu d'aller à la bourse, j'étais allé au Luxembourg, qui m'avait fait une impression déplorable, jusqu'au moment où j'ai découvert une petite salle à l'écart qui s'appelait salle Caillebotte. Ce peintre, car Caillebotte avait été peintre lui-même, avait légué ses tableaux à l'État. Après une bataille épique, l'État en avait accepté un certain nombre. Il avait d'abord voulu refuser le tout. Il en a refusé encore une partie appréciable. Mais néanmoins, il y avait là des tableaux très beaux, des peintres impressionnistes. Mais je dois dire qu'au premier moment... Je ne les ai pas lus. Je n'ai pas vu ce qu'ils représentaient. Je voyais ces tableaux. Je voyais qu'ils me plaisaient même. Mais je voyais des taches de couleur qui me plaisaient et rien d'autre. Ce n'est qu'après quelques visites que m'est apparu cet admirable monde mouvant où passaient l'air et la lumière, les nuages, ce monde que les impressionnistes y ont créé pour nous autres hommes.
C'était Gustave Caillebotte, un héros très discret. Avec Anne Distel, conservatrice honoraire du patrimoine, Marina Ferretti, directrice scientifique du musée des impressionnismes de Giverny, Stéphane Guégan, conservateur au musée d'Orsay, Pierre Wittmer, historien d'art, Xavier Bézard, professeur d'art plastique et romancier, Gilles Chardot, président du comité Caillebotte, et Mary Morton, conservatrice en chef à la National Gallery de Washington, avec les archives de Kirk Varnado, Jean Chardot et Daniel Kahnweiler. Merci à François Chevalier, à Nicolas Dupont-Aignan, au musée du Baron Gérard de Bayeux, ainsi qu'à Dominique Bussillet. Lecture Olivier Claverie et Delphine Saltel. Archivina, Amélie Briand-Lejeune.
Moi j'adore Turner, mais ça, je trouve que c'est... astronomique.
Si je ne me trompe, il lui a fallu 2 années pour le terminer. Et il a travaillé à Giverny, où il recevait souvent la visite.
J'ai entendu dire qu'une des choses que Monet essayait de faire...
Chut ! J'essaie d'écouter ce que Paul nous dit.
Il recevait souvent la visite de Caillebotte, un artiste que personnellement je trouve qu'on sous-estime.
Coordination Perrine Kervran, attaché de production Claire Poinsignon, prise de son Marc Garvenez, mixage Claude Niort, un documentaire d'Amaury Chardot, réalisé par Anne Pérez.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui chantait New York dans le Velvet Underground, Lou Reed. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.